dépistage de première ligne dans les troubles d'apprentissage? Est-ce que ils doivent pouvoir orienter vers des professionnels? Est-ce que, en fait, moi, je pense que la question, elle est même pas tant sur. Elle se fait en amont, elle est sur vraiment une espèce d'éducation grand public et après spécialisée en fonction des corps de métier sur les concepts de santé mentale, sur qu'est-ce que c'est un trouble identifié, comment se construit un diagnostic, comment, sur quel type de critères on peut repérer et pouvoir accompagner. Il y a notamment en Australie, par exemple, un cursus lié à la santé mentale qui est intégré dans le parcours scolaire des enfants. Alors, dans les petites sections maternelles, c'est une espèce d'éducation aux émotions. C'est quoi la joie, c'est quoi l'anxiété, c'est quoi la tristesse, c'est quoi la honte. Plus on grandit dans le parcours, plus on peut dire, OK, comment je peux exprimer les choses. Et dans le collège-lycée, c'est plutôt une éducation sur les grandes catégories de troubles mentaux. C'est fait de façon un petit peu comme ça, catégorielle. Je trouve que c'est un repère assez intéressant. Nous, la manière qu'on a eu de réfléchir à ça, c'est sur notamment la fiche sur le déconfinement qui avait été fait à la demande de l'éducation nationale, c'était de dire quels sont les outils que les enseignants peuvent avoir besoin dans leur quotidien quand ils sont confrontés à ça. C'est quoi la question en fait quand on est enseignant? Alors, j'ai évidemment pas toutes les réponses, mais les retours qu'on avait eus, c'était: je vois que tel enfant, il n'est pas très bien, je n'ai pas forcément les mots pour le mettre, j'ai surtout pas du tout d'outils pour le soulager ou pour l'orienter à l'extérieur. Donc, je trouve que ça rejoint un petit peu ce que vous avez dit, c'est-à-dire comment on peut réfléchir à des outils qui soient faits pour les enseignants dans une position d'enseignant. Évidemment, les Doctissimo, les Top Santé, c'est les sources qu'on retrouve en premier lieu quand on pose la question sur Internet. À mon avis, ça va être de plus en plus le cas. Je pense que la période actuelle, elle a un bénéfice, je pense, c'est que cette question-là de la santé mentale, elle arrive enfin au premier plan dans les débats publics, avec une prise de conscience quand même des enjeux à titre individuel, mais aussi collectivement pour les enfants, pour les parents. Je pense que ça va amener des nouveaux débats. Et comme tout nouveau débat et comme toute nouvelle prise de conscience, il faudra créer des nouvelles lignes de partage sur les rôles de chacun. Comment ça s'articule le lien entre un enseignant et un professionnel de santé? Comment ça s'articule le lien entre les compétences qui sont attendues pour un enfant sur le plan des apprentissages et les compétences de relationnel, de gestion émotionnelle qui peuvent être attendues. J'ai pas du tout toutes les réponses. Ce que je sais, c'est que ce débat, il est plutôt intéressant à pouvoir faire. C'est-à-dire que plus il y aura de lignes de front où on pourra confronter ses points de vue, discuter des usages, discuter des difficultés, des positions institutionnelles dans un sens comme dans l'autre, plus ça permettra d'arriver à quelque chose qui sera à la fois utile et en même temps enfin, accessible pour tout le monde et acceptable par tout le monde.
Donc, ouais, il faudrait qu'effectivement il y ait des outils qui soient à disposition. Est-ce que du coup, je veux dire, j'ai pensé, enfin, là j'ai posé la possibilité d'une formation, mais ça ferait peut-être un. Enfin, après, j'ai pris du recul là, de ce que je viens de dire et je me dis, mais ça fait énorme ce qu'on demande aux professeurs. Effectivement, on passe quasiment 70% du temps avec l'élève. Donc, on a une charge, enfin, j'ai l'impression, hein, une charge énorme sur le professeur. Il doit donc transmettre le savoir, transmettre un savoir-être aussi. Et en plus de ça, faut qu'il détecte enfin, faut qu'il arrive à voir l'état de la santé mentale des élèves. C'est, enfin, je suis qu'une étudiante de Master 1, mais moi, j'ai l'impression que c'est
Non, mais
énorme.
je pense que vous résumez bien la tension dans laquelle vous pouvez être à cette position-là. Je ne crois pas qu'il y aura je crois pas qu'il y ait un besoin de se substituer à des professionnels pour poser des diagnostics. Je pense par contre que vous êtes de fait dans un poste de vigie privilégié pour connaître les enfants. C'est-à-dire que un des marqueurs de modification, je pense notamment dans le cas de troubles de l'humeur chez l'enfant, c'est le changement de son comportement. les difficultés qu'il peut avoir, un fléchissement dans ses notes, dans ses capacités à suivre en cours, ou une irritabilité. Et de fait, vous êtes souvent en première ligne pour observer ça. Maintenant, c'est vraiment la question de l'articulation avec les différents corps de métier pour que cette charge-là, à la fois en termes de responsabilité, mais aussi en termes de sens dans votre pratique, elle puisse être portée par quelqu'un d'autre. Je pense que le job d'enseignant, c'est suffisamment lourd et suffisamment engageant pour pas avoir besoin de le diviser avec celui d'un soignant, avec celui d'un psychologue. Enfin,
Et je trouve ce qui est compliqué du coup, ce qui effectivement c'est ça, c'est une espèce de charge, une charge supplémentaire qui s'ajoute au métier de professeur. Mais je veux dire, même si on essaie de mettre en place, par exemple, il y a la conseillère sociale, enfin l'assistante sociale par exemple, ou alors j'ai jamais vu de psychologue au sein d'une école.
ils existent, ils sont rares, mais on peut les trouver.
Non, c'est vrai. C'est une créature légendaire. Je veux dire, j'ai l'impression que les élèves vont se mettre dans une espèce de condition. Enfin, nous, en tant que professeurs, on les voit tout le temps. Donc, finalement, même si les élèves veulent se cacher de quelque chose, c'est difficile de cacher quelque chose aussi longtemps quand il y a quelque chose qui ne va pas. Tandis que quand ils vont à un rendez-vous chez un psychologue ou je sais pas, moi, une assistante sociale, encore une fois, c'est facile de jouer un rôle où tout va bien, enfin, facile. Non, on souffre aussi à l'intérieur, mais je veux dire, on
En fait,
arrive à mettre.
la question, elle est. Je vais donner un exemple très concret. Nous, dans notre service, on a à la fois des enseignants spécialisés, donc qui appartiennent à l'éducation nationale et qui font cours dans l'unité, dans le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Et souvent, ils servent d'intermédiaires avec les enseignants. Par exemple, s'il y a un enfant qui est hospitalisé, qui a une évaluation X ou Y sur des questions. Très souvent, l'enseignante spécialisée dans le service va se mettre en relation avec ses collègues et plutôt parler autour des modalités d'apprentissage. Qu'est-ce qui est compliqué dans le quotidien de l'école? Qu'est-ce qui est compliqué? Qu'est-ce qu'il y a comme progrès? Qu'est-ce qu'il y a comme leviers qui sont mis en place pour les apprentissages de cet enfant qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas? Et elle sert un peu de courroie de transmission. Et ce que je sais aussi d'avoir eu beaucoup de réunions, alors c'est vrai que nous, on a un biais parce qu'on s'occupe des cas les plus sévères, entre guillemets. Mais dans ces situations-là, très souvent, on est amené à faire des réunions à l'école où les psychologues qui suivent les enfants peuvent aussi faire les réunions à l'école. Et il y a cette espèce de transfert de compétences sur une question très précise. OK, bah là, quand cet enfant, il se comporte de cette manière-là, en fait, dans sa situation, ça veut dire que X, Y, Z. Et ce travail-là de transmission de compétences, il y a presque un travail de traduction, hein, c'est-à-dire que en fait, les termes qui sont utilisés dans un champ institutionnel ne sont pas forcément les mêmes qui sont utilisés dans un autre. Mais en tout cas, cet espace de dialogue et de co-construction d'une réalité pour un patient, ce qu'on voit au quotidien, c'est que ça fonctionne. Mais c'est vrai que ça demande un effort important.
Alors, si je reprends cette idée-là, effectivement, en quelque sorte, de la zone de rencontre entre professionnels de l'enseignement et professionnels du soin, c'est aussi la question de savoir comment est-ce qu'on discute ensemble, comment on partage un vocabulaire, etc. Alors, est-ce que dans les autres participants, vous avez repéré des choses intéressantes dans vos recherches, là? Est-ce que on parlait du fait même de poser la question sur Google, comment est-ce qu'on fait pour poser la question? Quels sont les mots? Est-ce qu'on dit maladie mentale? Est-ce qu'on dit. Parce que peut-être qu'en posant certains mots, eh ben, à coup sûr, on ne trouvera pas la bonne source, quoi, d'une certaine manière. Les autres participants, qu'est-ce que vous avez pu observer? Là, je fais cette remarque-là, mais ça peut être d'autres choses que vous avez. Est-ce que vous avez trouvé des sources qui vous ont semblé fiables? Si besoin, vous pouvez partager votre écran, hein. Je peux vous donner, si vous voulez montrer quelque chose que vous avez trouvé et sur lequel vous voulez un avis, est-ce qu'il vous semble avoir trouvé, à partir d'un moteur de recherche, des sources fiables?
Je sais que pour notre part dans notre groupe, on s'est arrêté à un thème précis. On a défini une question et moi, tout à fait simplement, j'ai juste mis la question dans la barre de recherche. Et voilà, je ne me suis pas plus embêtée que ça finalement.
C'était quelle
Et
question?
comment?
C'était quelle question?
Alors attendez, je l'ai là. C'était comment prendre en charge un élève ou enfant pouvant être porteur du trouble du spectre autistique? Et en tapant cette question-là, on est tombé sur des sources du type EduSchool, education.gouv, donc on sait que enfin, c'est censé être fiable, par exemple.
Et est-ce que ça vous a
Ouais.
paru pertinent dans votre quand vous avez parcouru? Alors, je me doute que vous n'avez pas pu tout regarder en détail, mais est-ce que ça a donné des informations concrètes sur l'organisation de l'espace de travail, sur les modalités relationnelles peut-être un peu particulières? Est-ce que ça vous a paru opérant comme source?
Bah, en fait, on a trouvé ça intéressant parce que finalement, déjà dans le groupe de travail où on était formation mélangée, il y avait des professeurs des écoles et moi, je sais que je suis un master encadrement éducatif, donc c'est pas du tout le même milieu. Et on s'était posé, on est venu au même constat, c'est que finalement, dans nos stages respectifs, on s'est retrouvés à gérer des situations d'élèves en grande difficulté. Sans avoir véritablement les moyens de le faire, parce que on a des formations très théoriques et assez éloignées de la réalité du terrain et des choses qu'on peut voir sur le terrain. Et finalement, en regardant nos différentes ressources qu'on a trouvées, on a eu des définitions du trouble, on a eu finalement quel type de ressources utiliser, donc quels acteurs aller voir, quels dispositifs, quels aménagements. Des films et tout ça. Donc franchement, oui, c'était pas mal du tout, quoi. Après, il y avait des sites qui étaient moins fiables que d'autres, mais bon, sur ce, au moins que j'ai pu vous citer, bah, on se doute que c'est quand même des sources qui sont sûres, quoi.
Super. La question, ça me fait rebondir aussi sur la question du langage et des différentes sources. Et vous parliez des aspects théoriques qui sont souvent mis en avant, et c'est aussi une des difficultés du champ de la santé mentale, et plus particulièrement du champ de la santé mentale de l'enfant, c'est que c'est encore un lieu où les définitions de catégories, de référentiels théoriques qui sont utilisés pour justifier la présence de tel ou tel trouble sont encore en débat, voire même en conflit interne à la profession des professionnels de santé mentale de l'enfant. Et donc je pense que ça crée une couche supplémentaire de confusion quand on essaye de dialoguer avec des gens qui ne sont pas dans ce champ professionnel-là. Et ça doit, je pense, en tant que quand on recherche des ressources, ça participe aussi à une espèce d'opacification et voire, à mon avis, parfois une mystification de ce que c'est la santé mentale de l'enfant.
On en a un petit peu parlé, mais ce dont on a surtout parlé, c'est ce que j'ai un peu regretté de ne pas trouver comme information, ou du moins, j'ai peut-être pas cherché au bon endroit, c'est que on se retrouve parfois en tant que professionnel de l'éducation confronté à des parents qui n'acceptent pas la différence de leurs enfants, enfin, pas qu'ils l'acceptent pas volontairement, c'est qu'ils sont pas en capacité de l'accepter ou qu'ils n'ont pas encore fait le deuil de l'enfant idéalisé, si je peux dire ça comme ça. Et je sais que, enfin, en ce qui me concerne, moi, en stage, j'ai été mise face à ce type de situation et je me suis trouvée complètement désemparée parce que je ne savais pas comment agir avec ces parents pour qui, finalement, leur enfant n'avait aucun problème et tout allait bien dans le meilleur des mondes alors que pas du tout. Et là, par contre, effectivement, je trouve que, en tout cas, je trouvais que ça manquait de ressources. J'ai peut-être pas cherché au bon endroit, mais voilà.
Non, c'est jamais évident. En plus, dans le champ de la psychiatrie de l'enfant, on a des outils qui sont, pour le coup, je sais, font débat dans l'éducation nationale, mais non, on utilise beaucoup de grilles d'évaluation, de quantification, de comparaison à des moyennes. Donc, on a un ensemble d'outils, soit de dépistage, soit de quantification de symptômes. Je pense par exemple, je sais pas, je vais prendre l'exemple sur les fonctions intellectuelles, par exemple, les fonctions cognitives au sens large. C'est un outil important pour pouvoir faire représenter aux parents la position de leur enfant à un moment donné par rapport à une moyenne des enfants du même âge. Mais c'est un travail extrêmement compliqué. Et je pense que là aussi, les tensions entre champs institutionnels, ils existent parce que, à mon sens, de faire du sur-mesure à l'éducation nationale, c'est une position qui est extrêmement difficile. Alors que dans la position d'un parent qui a un enfant avec un trouble particulier, il se retrouve justement dans une tension en disant, mais comment faire en sorte que mon enfant, avec ses besoins très spécifiques, parfois extrêmement lourds, puisse évoluer dans le même endroit que les autres?
Mais il n'y a pas seulement ça, c'est surtout être capable aussi pour les parents d'accepter qu'il y a cette différence-là. Et finalement, le problème, c'est qu'en tant que professionnel d'éducation, si on est censé aider ses enfants et être nous-mêmes aidés par les parents pour aider ces enfants-là, mais comment faire ce travail-là quand les parents derrière sont pas là? Pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est parce que finalement, psychologiquement, intellectuellement parlant, je ne sais pas, ils sont pas en capacité de faire ce travail, de faire ce chemin. Alors voilà, en tout cas, c'est mon opinion à moi, c'est la réflexion que je me fais par rapport aux expériences que j'ai eues. C'est vrai que pour l'instant, je trouve difficilement des réponses pour m'aider à pallier à ce problème si je rencontre à nouveau ce genre de situation.
Ouais. Je sais pas si ça fait écho chez d'autres.
Est-ce que d'autres, vous avez été confrontés à ces sources d'informations qui vous semblaient, ou l'absence de sources, l'absence de sources d'informations pour répondre à des besoins concrets? Là, je me dis, parce qu'en fait, vous avez trouvé des sources fiables, institutionnelles, en tout cas celles du SCOL. On peut penser que c'était la manière dont vous avez posé la question qui, finalement, est une manière enseignante de poser la question. Comment permettre la prise en charge d'un enfant. Mais parce que, enfin, moi, je me dis qu'il y a la question du moteur de recherche, tout simplement aussi. C'est-à-dire que, est-ce que parmi les participants, vous avez trouvé dans les résultats le site Clepsy? Est-ce que vous l'avez trouvé? Non, il n'est jamais revenu dans les résultats. Donc, ça veut dire que, en fait, si on veut trouver la bonne info, ce n'est pas un moteur qu'il faut utiliser, quoi.
Non, mais c'est ça, c'est de dire plus. Donc, nous, on partage les mots-clés et puis il y a tout un. Cet enjeu, faut les sources que vous avez citées, Doctissimo, Top Santé, Maman et Santé, enfin, c'est des sites qui dépensent des milliers d'euros de référencement, de publicité ciblée, de mots-clés et qui maillent, en fait, l'accès à l'information. C'est vraiment un ticket d'entrée pour être référencé. En plus, il y a une autre pénalité, c'est un sujet sur lequel je me suis penché très récemment, c'est que pour les institutions publiques, ce n'est pas si évident d'acheter directement des mots-clés auprès de Google ou Facebook, même si ils ont tout un système de mécénat qui permettrait de ne pas dépenser des sommes complètement énormes. En fait, typiquement, l'assistance publique Hôpitaux de Paris n'a pas le droit, manifestement, d'acheter directement des mots-clés. Je pense que pour l'éducation nationale, probablement qu'il y a des limites aussi de cette manière-là qui font que on ne joue pas au même jeu que des acteurs privés avec des intérêts financiers.
Alors, il y a quelqu'un qui a levé la main.
Oui, c'est moi.
Oui.
Bon, mère, excusez-moi. Je vis encore en 1900 parce que je ne peux pas travailler avec les ordinateurs. Mais excusez-moi, je suis étudiant boursier et j'ai aussi fait l'exercice. Mais je ne sais pas que. J'ai fait la bonne chose, ce que j'ai fait pendant le travail, c'est de regarder qu'est-ce qu'on peut faire comme enseignant en classe avec les élèves qui ont besoin qu'ils ont besoin d'une aide supplémentaire. Est-ce que c'est juste ou non? Parce que oui, tout est en distanciel et
je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Ça serait de savoir si des ressources pour accompagner de façon un peu plus spécifique
Ah,
les enfants
d'accord.
avec.
Oui, excusez-moi.
Non, non, il n'y a aucun souci. Sur les ressources supplémentaires, c'est là où la question de l'accompagnement individualisé, à mon avis, il est pas toujours évident. Et c'est pour ça qu'il y a besoin d'autres professionnels. Encore en dehors des médecins ou en dehors des enseignants. C'est-à-dire que je prends l'exemple d'enfants qui auront, par exemple, un accès difficile au langage écrit ou au langage oral, qui ont besoin de soutien orthophonique. Il y a besoin de mettre en place des enseignements spécifiques, des exercices spécifiques en parallèle à un cursus classique d'apprentissage de l'écriture ou de la lecture avec le renforcement de certaines techniques. De décodage de la lecture, par exemple. Et du coup, pour l'instant, il y a un peu d'exercice papier-crayon qui est proposé. Il commence à se développer quelques systèmes informatisés, mais qui ne sont pas encore validés sur le plan scientifique, qui n'ont pas fait la preuve de leur efficacité. Donc, on est dans une espèce de moments un peu charnières. C'est-à-dire que il y a certains usages numériques qui ont explosé, qui sont devenus vraiment de pratiques faciles, courantes. Je pense au télétravail, je pense aux cours par visio, même si on peut discuter toutes les limites que ça a aussi, mais en tout cas, c'est facile d'accès. Et en même temps, on voit bien que ça ne remplace pas encore toute la profondeur de type d'enseignement, d'accompagnement qui peut être proposé en individuel. Donc, je pense à l'orthophonique, mais je sais pas, on pourrait même en parler pour la pratique d'une activité physique. Hein. On sait que un des enjeux majeurs de la crise de la santé mentale qu'on est en train de traverser, il est médié aussi par la sédentarité forcée. Donc, en fait, comment on fait quand on est prof de sport pour pouvoir transmettre des pratiques, corriger une posture, encourager, accompagner, motiver un enfant via un écran, c'est extrêmement difficile. Ça, pour l'instant, la technologie, je trouve que c'est pas les réponses qui sont proposées en pratique courante, moi, elles ne me paraissent pas extraordinaires. Alors, il y a des choses qui émergent, il y a des réflexions qui émergent, mais pour l'instant, c'est quand même pas très opérant.
Je vois la remarque qui a été faite que les magazines dits féminins arrivent beaucoup dans les résultats. Et alors, pour l'avoir regardé dans d'autres domaines, à savoir celui sur les usages des réseaux sociaux, etc., parfois on a des articles très pertinents qui sont dans la presse, on va dire grand public, hein, y compris presse féminine, presse ado, etc. Est-ce que c'est une piste que vous explorez, ça, de peut-être aussi transmettre ce type d'informations par une presse plus grand public?
Oui, ça aussi, c'est un peu nouveau comme exercice, mais on a, pour dire les choses très franchement, on n'était pas très habitué des plateaux télé ou des interviews, et on a senti la nécessité de pouvoir partager aussi notre position avec le grand public. Donc, on est quand même assez soucieux en tout cas dans notre service, hein, on ne parle pas à tout le monde. On demande quand même à ce qu'il y ait un minimum de sérieux dans la démarche journalistique qui est faite, mais on essaye de pouvoir toucher un plus grand public. J'ai des collègues qui sont intervenus notamment dans l'émission des maternelles. Enfin, c'est des choses qui sont garantes d'une certaine rigueur. On est quand même dans une posture à Robert Debré et pour le site. De discuter des soins selon les modalités qui sont reconnues par la littérature scientifique internationale. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle est exempte de toute reproche et qu'il n'y a pas des débats importants qui sont amenés sur les définitions et sur ce qui est considéré comme efficace ou pas, mais ça veut dire qu'on est dans ce cadre-là. On propose des solutions qui sont validées, et si il n'y a pas de solution validée, on ne proposera pas d'alternative, par exemple. Donc parfois dans certains titres de presse, ça peut être compliqué à comprendre. On n'a pas toutes les réponses. Et ce que je remarque dans ce type de contenu, c'est qu'ils sont dans une dynamique parfois de devoir produire un maximum de. Il faut qu'il y ait une réponse à toutes les questions qui sont produites. Il faut qu'il y ait en permanence une solution. Et si cette solution, je vais caricaturer un peu, mais elle consiste à s'appliquer de l'huile essentielle sur les chevilles 3 fois par jour pour améliorer, eh ben, ils la proposeront parce que par défaut, ce sera considéré, c'est une position de leur part vis-à-vis de leur lecteur, qui est de dire on vous accompagne dans une solution. Alors que nous, on va être dans une position de dire, si la littérature scientifique n'a pour l'instant pas rien à proposer, malheureusement, on est un peu démunis. Alors, de façon informelle, on peut en discuter, mais ça peut être compliqué d'articuler les points de vue dans ces moments-là.
D'accord.
Margot, je pense que, juste pour compléter, le travail de vulgarisation au sens noble, à mon avis, fait partie en 2021 des missions de santé publique d'un médecin ou d'un soignant. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire, on peut plus faire l'économie de parler au grand public et laisser des charlatans parler pour nous, pour dire les choses.
J'ai une petite question, du coup.
Il y a Margot qui avait demandé la parole, je suis désolée, d'accord. Annabelle.
Ouais. Dis-moi, pardon.
Peut-être Annabelle, vous pouvez noter votre question dans le bloc pour pas qu'on l'oublie.
Ah oui, bien sûr.
Oui, bonjour. Alors déjà, merci pour cette conférence. Et en fait, je voulais savoir, donc, vous parlez de littérature scientifique, et par exemple, nous qui sommes juste pour l'instant élèves, voire plus tard enseignants, comment accéder en fait à cette littérature scientifique? Parce que j'imagine que quand nous on le lit, ça va être très compliqué de retenir l'essentiel, et je me demandais comment trouver des ressources fiables qui vulgarisent, mais en même temps qui restent quand même dans le vrai par rapport à ces ressources scientifiques.
Eh ben, je trouve que c'est une super question et typiquement une question à laquelle je ne suis pas sûr d'avoir une réponse. Dans les ressources, je vous ai mis un peu, plus à titre informatif, quelques articles de revues scientifiques qui traitaient justement de la validation ou non de contenu d'informations scientifiques. Je crois, à mon avis, que c'est une. À part si on est passionné et par un champ de questions, que rentrer dans le décodage d'une littérature scientifique, ce n'est pas forcément la voie d'accès la plus royale. Je pense qu'il y a d'un côté besoin d'avoir une éducation plus large à comment se construit un consensus scientifique, des enjeux de statistique générale, des enjeux de validation, des enjeux même de philosophie de la santé. C'est-à-dire que c'est des vraies questions qui ont été amenées au grand public avec la crise du Covid-19. Et de l'autre, la question de relais d'informations fiables. Pour le moment, en tout cas sur la question de la santé mentale de l'enfant, je trouve qu'on manque de ces relais, justement, de ces courroies de transmission. C'est-à-dire que je ne crois pas que tout le monde, tous les gens qui sont intéressés par la santé mentale, ne vont pas tout d'un coup avoir accès à la littérature scientifique en anglais, parfois pointue, parfois très indigeste dans la structure. Par contre, la question de pouvoir transmettre à la fois des outils pour les décoder pour ceux qui sont intéressés et à la fois des relais d'information, je crois que c'est le cœur des prochaines années. Et c'est pour ça que nous, on essaye un peu à la fois par Clepsy, de faire du contenu. On a fait maintenant, on commence tout juste ce format-là, mais en parallèle aux fiches pratiques pour les parents, on est en train de commencer à proposer des fiches qui s'appellent Pour aller plus loin, où pour le moment des chercheurs vulgarisent leurs travaux de recherche sur la question de la santé mentale. Donc on est au tout début, je pense que le format il doit être encore réfléchi et amélioré, mais notre idée c'est justement de promouvoir ce travail de courroie de transmission. Après, la question de l'éducation à la, à la, à la, à la, à la, à la à la production de la science, à mon avis, c'est un enjeu important. Et donc Twitter, et donc Facebook, et donc quelques relais qui sont pertinents selon les champs de compétences.
Alors j'irai dans le même sens en disant qu'effectivement, ça pose la question de l'enseignement, apprentissage des élèves à l'évaluation de l'information scientifique, enfin apprendre progressivement quelles sont les sources fiables, comment est-ce qu'on fait pour reconnaître un article qui traite de la santé, qui est pertinent, pas pertinent, et effectivement, comment est-ce qu'on fait? Parce que on voit bien dans les écoles et dans les collèges et lycées les questions que les jeunes se posent au fur et à mesure sur leur propre santé, que ce soit santé physique ou santé mentale, et à quel type d'informations ils ont accès et qu'est-ce qu'ils considèrent comme étant fiable. Donc c'est vrai que ça fait probablement partie des objets à enseigner dans les années à venir. Enfin voilà, si ce n'est pas le cas, si ça devient des urgences importantes.
Moi, je souscris complètement. Par contre, je pense que c'est assez ingrat parce que c'est de l'information qui est un peu sèche, c'est de l'information qui est compliquée, c'est de l'information qui donne pas de réponse toujours claire et nette, c'est de l'information qui donne une tendance, qui va dire ok, c'est peut-être un peu une bonne solution, mais ça n'a pas répondu complètement à la question. Et donc, c'est cet a priori-là aussi qui est à transmettre, c'est-à-dire c'est accepter l'incertitude. Et ça, c'est, à mon avis, une valeur importante à pouvoir transmettre, mais je pense que c'est pas.
Oui.
Pour le voir, moi, avec les étudiants en médecine, c'est pas toujours évident.
Mais c'est vrai que ce matin, dans les conférences, on avait beaucoup, je ne sais pas ce que les participants en penseront, mais on avait beaucoup le vocabulaire de cette incertitude, de la tension, des choses compliquées à penser, de l'urgence, de la crise. Et on se dit que peut-être que apprendre à gérer l'incertitude, ça se fait pas en essayant de répondre à l'urgence à tout prix, et qu'au contraire, peut-être que un des rôles des enseignants, enfin, et des professionnels, c'est d'apprendre à ralentir, pas être dans l'opposition forcément, mais en tout cas apprendre à ralentir et ouais. Est-ce qu'il y a d'autres retours, remarques hein, de tous ceux qui sont présents? Ça peut être alors il y avait une remarque, donc la remarque d'Annabelle, hein, qui était la question de la vidéo. Oui, Benjamin, mais... vous disiez tout à l'heure. Voilà, ouais, Benjamin, ouais. Benjamin Landemann le mentionnait tout à l'heure, hein, qu'il y avait une réflexion sur les vidéos. Même si on sait que les vidéos sur YouTube posent d'autres, enfin posent des questions, c'est que regarder une vidéo, ce n'est pas apprendre. Sinon, je saurais faire plein de choses, rien qu'en regardant des vidéos.
Ouais.
Après, je ne sais pas trop, parce que bon, c'est peut-être apprendre, effectivement, non. Mais déjà, prendre connaissance. Je veux dire, après, encore une fois, il faudrait parler du contenu des vidéos. Mais là, on parlait, par exemple, donc dans l'identification de certains problèmes, le vocabulaire que les personnes n'ont pas forcément. Donc, ça serait des vidéos plus de présentation, de définition de certains termes et d'explication de ce que c'est, ou on va dire encore une fois de présenter les tendances actuelles là-dessus. Et par exemple, quelque chose que je regarde en ce moment sur YouTube, c'est Body Academy, je crois, et il parle en fait donc des différents, enfin, c'est un laboratoire de médecine, et donc il présente différentes maladies, comment ça marche, enfin, plein de choses assez variées qui est super intéressant. Et effectivement, je les retiendrai pas forcément toute ma vie, si c'est ça le terme à prendre. Mais je veux dire, au moins, j'ai pris connaissance de ça. Ok, ça va pas me servir, mais au moins, je comprends, j'aurai un peu plus d'outils, hein, une petite base, au moins pour appréhender, je sais pas moi, une situation, je sais pas, parlant des intestins ou de l'estomac. Mais là, pour le coup, on est sur tout ce qui est donc la santé mentale et les troubles qu'il peut avoir, ou même les aides aussi, hein, définir, mettre un mot sur les aides, justement, augmenter son vocabulaire, et du coup aussi peut-être orienter nos recherches, si on veut y aller, si l'envie nous habite, sur Internet, par exemple. Mettre les bons mots, justement, pour ne pas tomber sur tout et n'importe quoi.
Ça me fait penser, j'ai des collègues qui ont créé une chaîne YouTube il y a plusieurs années de ça, maintenant, qui s'appelle le PsyLab. Et en fait, ils ont une démarche assez intéressante parce qu'ils parlent de grandes questions de santé mentale de façon assez poussée, mais à travers des illustrations issues de la pop culture, des jeux vidéo, des extraits de films, de séries. Donc, ils ont fait cette démarche un peu didactique qui, à mon avis, a son sens. Nous, la réflexion qu'on a autour de la vidéo, elle était de se dire qu'est-ce qui peut être transmis de cette manière-là. Effectivement, comme on est quand même dans une approche pratique, en tout cas sur cette question de clepsie, on essaye de penser le format vidéo comme un facilitateur, c'est-à-dire qu'on aimerait que les gens qui regardent une vidéo sur, par exemple, un exemple un peu trivial mais qui est très important, c'est les techniques éducatives pour des enfants qui ont par exemple un handicap mental très lourd ou qui n'ont pas accès au langage verbal. Donc il y a plein de techniques issues du monde de l'éducation spécialisée pour apprendre un comportement, je ne vais pas être autonome pour se laver les mains par exemple ou aller aux toilettes. Et donc évidemment ça demande de l'expérience, ça demande des retours, c'est quelque chose qui se fait sur le temps long. Ce qu'on pense qui peut être utile via une vidéo, c'est la transmission de posture, la position d'un mode de communication, voilà, des choses qui sont plutôt sur le mode du savoir-être. Après, ce type de contenu, il pourra se comprendre qu'en lien avec d'autres sources d'informations plus classiques. Donc, c'est un complément. Mais c'est vrai que la démarche d'apprentissage et surtout d'un apprentissage un peu technique, je pense qu'il peut se faire que de façon active. Mais là où je vous rejoindrai, Annabelle, c'est sur la question, voilà, le fait d'être exposé à des concepts, le fait d'être exposé à des présentations, ça permet de commencer à se familiariser, à se représenter mentalement un champ de connaissances qu'on n'a pas forcément initialement.
Oui, et on peut imaginer que la vidéo soit accompagnée ensuite d'un travail d'appropriation. Voilà. Je vais partager une page qui a été soumise. Pour que vous puissiez commenter. Et voilà, si j'arrive à la trouver. Voilà, tout le monde la voit. C'est bon. Ouais. Donc, est-ce que c'est une... La question était, est-ce que c'est un site, est-ce que c'est une page qui est fiable? Je peux circuler un petit peu dedans.
Hyper Super, c'est vraiment une... c'est une association de parents d'enfants avec un trouble déficit attentionnel qui fait un travail assez impressionnant de formalisation, d'éducation, de conseils entre parents, d'orientation aussi sur le terrain vers des professionnels qui sont formés et qui ont au fur et à mesure des années construit un site qui est une source vraiment, une mine d'or pour les parents. D'ailleurs, que nous, on se transmet vraiment en pratique courante aux familles, hein, quand ils ont des questions diagnostiques. Il y a un travail qui est fait sur d'explication des modalités de traitement, par exemple, qui est vraiment intéressante. C'est vrai que l'identification de dire quand on arrive comme ça sur cette page qu'on ne connaît pas, alors il y a le petit tableau reconnu d'utilité publique, sinon on n'a pas d'éléments pour se dire voilà, est-ce que je suis sur un endroit qui est complètement valide. Mais c'est vrai que c'est une association, d'ailleurs je pense qu'en termes de nombre, c'est la plus grande association de parents d'enfants avec un TDAH, et ils font un travail de terrain assez formidable. Et c'est aussi une des réflexions qu'on a, c'est-à-dire que de la même manière que sur la question du déconfinement, on a beaucoup parlé avec des enseignants, de manière générale, on cherche à avoir un retour et à co-construire avec les familles nos contenus. C'est vraiment important pour nous que ça soit en accord et dans la continuité de leur vécu. Je vous ai dans les ressources, vous pouvez regarder, mais quand on ne fait pas un site internet pour les familles en période de crise, mais quand on a le temps de le construire de façon un peu sérieuse dans le champ médical, l'immense majorité de méthodologies propose de faire une première base issue de l'expertise dans un champ donné, de l'exposer à des patients qui sont concernés ou à des familles qui sont concernées, de prendre en compte les retours, de les intégrer dans la proposition, et à ce moment-là, d'évaluer... en fait, dans la méthodologie qualitative de création d'un contenu, de ce type de contenu d'information sur Internet, c'est vraiment devenu le gold standard de co-construire à la base avec les principaux concernés.
Si je fais un commentaire moi sur la page, c'est vrai qu'on voit quand même qu'on n'a pas accès, on n'a pas affaire à une page qui serait sur des contenus simplistes.
Ouais.
On est avec une précision de vocabulaire, une mise en page relativement sobre, et puis il n'y a pas de facilité de formulation. Hein. Donc,
ouais. Non, mais ça d'ailleurs, alors à titre personnel, c'est vraiment mon cheval de bataille un petit peu. C'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'on, en tant que soignant, en tout cas quand on a une proposition de ce type-là à faire, il faut s'accaparer les outils du design, les outils de l'ergonomie en ligne, les outils de facilité d'accès à l'information. Alors, on n'arrivera jamais aussi bien que les gens qui ont juste quelque chose à vendre et pour lequel il suffit de cliquer sur un bouton un peu brillant, parce que par définition, c'est de l'information plus complexe. Mais je crois qu'il ne faut pas avoir honte du tout de parler de beauté, de motivation, de confort visuel, d'univers à proposer. Je pense que c'est des outils, alors il ne faut pas les mettre à la même place que le fond, que la construction d'un savoir, mais je pense que dans le paysage qu'est Internet, il faut voir aussi l'importance que ça a de la présentation, l'accès. Avant, on pouvait parler de l'effort à faire sur le style littéraire ou le niveau de langage, le niveau de vocabulaire, mais je crois qu'il faut étendre un peu ces conceptions-là au champ du design, de l'ergonomie. Moi, c'était la première fois que je parlais professionnellement avec des designers, avec des gens qui font du user experience sur Internet, comme on dit. Et c'est très enrichissant. Ils ont une réflexion des usages qui est vraiment très, très riche, très pertinente.
Oui, parce que ça permet une meilleure accessibilité au contenu.
Complètement.
Donc c'est bien, on peut avoir un
contenu, on peut avoir un contenu extraordinaire. Si personne n'y arrive, c'est une bouteille à la mer, en fait.
Ouais. Camille qui partageait cette page, est-ce que vous aviez des commentaires spécifiques à faire, des réactions? Vous l'aviez vous-même trouvé fiable? Je ne sais pas si Camille peut remettre son micro, si elle est là, ou son groupe, en tout cas, qui avait identifié ce document.
Oui, en fait, nous, dans notre groupe, on avait décidé de faire une recherche sur les enfants ou les élèves hyperactifs. Et finalement, c'est la seule source qui nous a semblé fiable qui ressortait. Autour de ça, il n'y avait vraiment que des choses, des forums, des magazines féminins, des Doctissimo, etc. Mais rien, rien qui donne vraiment un contenu dans lequel on puisse avoir confiance de prime abord.
Ça, c'est sûr que le TDAH, c'est vraiment un serpent de mer en termes d'information grand public, parce que c'est une catégorisation clinique qui a longtemps fait débat, qui en France particulièrement rencontre des résistances importantes, bon, qui sont pour partie en tout cas pertinentes et qui méritent d'être débattues, mais du coup ça confusionne aussi l'accessibilité à de l'information. Et en plus, comme ça regroupe des modalités d'expérience de parents qui peuvent être facilement identifiables, même si en réalité un diagnostic de TDAH, c'est quand même plus précis que ça, mais de se dire qu'un enfant il est agité, de se dire qu'il a des difficultés à se concentrer, on peut facilement se projeter là-dedans en tant que parent. En tout cas, on ne peut pas facilement pouvoir se dire, bah, en fait, c'est une explication fiable et logique au problème que je rencontre à la maison. Du coup, c'est devenu un espèce d'attracteur pour plein de sites. Et je pense que ce n'est pas anodin que régulièrement, dans cette conversation, on aborde la presse dite féminine, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment... Il y a beaucoup de mères de famille en difficulté qui sont des cibles particulières pour ces... Pour ces sites-là, moi je considère que c'est pour beaucoup des sites un peu prédateurs, c'est-à-dire qu'on identifie des populations qui sont en difficulté, qui sont fragilisées sur des questions, qui sont isolées parfois, qui n'ont pas de réponse, et puis on va commencer à les matraquer de solutions plus ou moins pertinentes. Après, c'est vrai que dans le tas, même parfois dans la presse grand public, il y a des choses très intéressantes qui sont écrites, mais il y a aussi du grand n'importe quoi.
Est-ce que vous auriez des éléments d'arguments que des enseignants pourraient avoir auprès des parents, justement concernant cette question des sources. Comment est-ce qu'un enseignant peut dire à des parents, voilà, non, cette source, elle n'est pas fiable, il vaudrait peut-être mieux.
C'est vraiment, en tout cas, une des choses les plus importantes dans l'identification des sources, c'est de savoir qui a écrit. C'est pas la même chose si on est journaliste grand public par rapport au fait d'être journaliste santé, par rapport au fait d'être un professionnel de la santé, par rapport au fait d'être un parent d'enfant. Enfin, la question de qui a écrit, pourquoi, ça me paraît déjà être important. Est-ce qu'on a quelque chose à vous vendre? Est-ce qu'on a quelque chose à vous proposer à la fin de cet article? Est-ce qu'on a une solution miracle? Ou est-ce que vous êtes ressorti de cette lecture avec plus d'informations ou alors encore plus de questions? Est-ce que vous êtes... La question un peu de redonner de la perspective aux parents comme acteurs de sa lecture, ça me paraît être un des préalables vraiment importants à une réflexion critique sur les sources. Et ça, je pense qu'il y a encore du chemin à faire. Et l'étude du Pew Center, elle m'a paru vraiment très... très pertinente parce qu'elle dit la difficulté que peuvent avoir les usagers en cherchant de l'information sur la santé de leurs enfants. C'est-à-dire que beaucoup de parents savent que sur Internet, on a un peu tout et n'importe quoi, mais au moment où ils le lisent, ils ne savent plus tellement où ils se situent sur ce spectre-là. C'est-à-dire qu'ils sont souvent dans une démarche d'anxiété. C'est-à-dire quand on va chercher de l'information sur la santé de son enfant, il faut se dire qu'on est dans une modalité psychique particulière. Et du coup, si on n'a pas des motivations un peu actives à s'extraire un peu en disant ok, mais où je suis, sur quel site, qui me l'a recommandé, comment je l'ai trouvé, qu'est-ce que j'y lis, et ben on s'abandonne très facilement.
Et c'est vrai que cette question-là, elle est valable pour le domaine de la santé, comme elle est valable toutes les questions de controverse, les questions vives actuelles.
Exactement. Ouais. Ça peut être. Enfin, je pense que c'est une démarche un peu de éducative qu'on retrouve même sur des questions politiques, des enjeux sociaux. On est aussi à un moment qui est, je trouve, assez intéressant dans les constructions entre le, à la fois des... on sent qu'il y a, et à mon avis à juste titre, une valorisation de l'expérience subjective vis-à-vis d'une question donnée, et en même temps, la question de la place de l'expertise, elle se pose encore. Qui a une expertise qui est valable? Qui a une expertise qui est pertinente? Pourquoi est-ce que sous couverte d'expertise, je devrais absolument écouter ce que me dit cette personne? Et on est en plein dans cette période sociale-là, et je trouve que c'est enrichissant, mais ça veut dire qu'il faut collectivement et individuellement faire un effort supplémentaire dans notre manière de produire et de consommer de l'information.
Et sur la question du travail collectif, hein, la manière dont vous avez fait ça en équipe, quand on en avait parlé, vous m'aviez dit que tout le monde s'y était mis.
Ah ouais.
Ouais. Est-ce que vous pourriez revenir un peu sur cette expérience-là? Ouais.
Bon, déjà, pour vous représenter, donc le service de psychiatrie à l'hôpital Robert Debré, c'est plus de 200 personnes qui y travaillent, avec différents champs qui sont représentés. Donc, il y a des médecins, il y a des psychologues, il y a des orthophonistes, des psychomotriciens, il y a des assistantes sociales, il y a des infirmières, des aides-soignants, des enseignants aussi spécialisés. Qui s'articulent sur différentes unités, soit des unités d'hospitalisation, soit des unités de consultation, soit des unités de dépistage, des urgences, enfin voilà. Donc on a l'habitude de travailler de façon collective dans notre pratique clinique au quotidien. Ce qui était vrai, c'est que jusqu'à maintenant, dans la production de contenu, les échanges étaient plus limités. C'est-à-dire qu'il y a une activité de recherche à Robert Debré qui est importante, qui concerne plutôt les médecins, les psychologues et une partie des orthophonistes, en gros, si je caricature un petit peu. Et là, en fait, de façon complètement spontanée, les fiches ont été coécrites. C'est-à-dire que les discussions avaient lieu en équipe. Ok, ben ça, je pense que ce sera intéressant. Ben ça, j'ai une famille que je suis qui m'a demandé des informations là-dessus. Et puis, on se dispatchait les différentes thématiques par équipe ou avec des gens qui le portaient. Et puis, on disait, OK, ben, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir le point de vue dans cette question-là d'une orthophoniste. Ce qui serait important, d'avoir le point de vue d'un infirmier. Ce qui serait important, ce serait d'avoir le contenu d'un psychologue. Et puis, on co-construisait très, très concrètement, comme je vous disais tout à l'heure, sur Google Doc. Donc, on avait un élément partagé, et puis chacun amenait des éléments supplémentaires, commentait, discutait, corrigeait la partie de l'autre. Et je pense que c'est vraiment pour beaucoup dans le succès qu'il y a eu de nos fiches. Et c'était un vrai travail de collectif, comme on n'en avait pas forcément de cette manière-là.
D'accord. Et est-ce qu'il vous semble que ça a permis de, je sais pas, de développer de manière complémentaire des compétences, ou enfin, est-ce que ça a modifié votre soin ou ça, le regard sur les familles ou...
Ça a beaucoup modifié notre soin, ça a beaucoup modifié notre réflexion autour de ce qu'on est en mesure de transmettre ou pas aux familles, de nous rendre compte aussi, de prendre conscience de la puissance de ce genre d'outils pour améliorer l'information, parce que qui dit amélioration de l'information, ça sous-entend aussi que de base, on n'a pas une information qui est extraordinaire à transmettre. Il y a une littérature abondante sur quelle quantité d'informations est retenue par des patients en consultation médicale. C'est une littérature qui est très intéressante, hein. C'est relativement faible. Alors, les chiffres, ils ne valent pas grand-chose, mais c'est loin d'être la majorité de l'information médicale qui est transmise pendant un échange. Qui est retenu par les patients. Nous, on voyait de pratique de façon quotidienne, hein, les parents qui viennent avec une liste de questions en disant bah, « j'ai oublié de vous demander ça la dernière fois » ou qui renvoient un mail. Et là, tout d'un coup, on leur dit bah, « non, mais attendez, non seulement vous pouvez y aller, mais vous pouvez vous aussi être acteur de cette compréhension de votre enfant. » Donc ça, c'est le premier point. Sur la démarche collective, ça, c'est quelque chose qui est parti pour durer, quoi. C'est-à-dire que maintenant, de façon hebdomadaire, on fabrique des fiches à plusieurs. Il y a des propositions qui émanent de tous les corps de métier. J'espère que ça va durer.
Alors, je ne sais pas ce que les autres en penseront, mais il me semble que ça, c'est transposable au monde de l'enseignant, parce que les enseignants, pendant toute la période qu'on vient de vivre, eux aussi ont transmis des informations aux familles. Et si on se pose la question de quelle quantité d'informations a vraiment été reçue, comment est-ce qu'on a fabriqué cette information, est-ce qu'on a simplement partagé une page qui circulait sur Internet ou qui était envoyée par l'institution, ou est-ce qu'on l'a co-construite avec les collègues? Enfin, c'est des questions finalement qui sont tous les métiers de relations, enfin ce que nous on appellera de relations à autrui, qui sont confrontés à ça. Donc, je sais, parmi les participants, là, est-ce que vous avez, ou peut-être même vous avez été confronté aux documents envoyés par vos enseignants, par vos formateurs, qui avaient fait l'objet d'un travail collectif, ou bien au contraire qui étaient inappropriés par rapport à vos besoins. Je pense que c'est des questions dont il faut réussir à se saisir. Est-ce qu'il y a des réactions ou des remarques par rapport à ça? Non. Je vous laisse le temps de réagir avec juste une question. Est-ce que Wikipédia est fiable en information scientifique sur la santé mentale?
Je vais vous faire une réponse un peu de snob, mais le Wikipédia anglophone est plus fiable que le Wikipédia français.
D'accord. Sur cette question-là, précisément.
Sur cette question, oui, sur celle que je peux voir, c'est plus fiable. Et mon point de vue subjectif sur la presse quotidienne, je trouve qu'il y a un niveau qui augmente d'année en année, une réflexion qui est de plus en plus fine sur la question de santé mentale de l'enfant. Il y a une prise de conscience. Alors, on est aussi un champ qui est sujet à beaucoup de fantasmes, à beaucoup de glorification. Il y a une espèce de romantisation de la santé mentale des ados. On voit régulièrement fleurir des articles en immersion dans un service avec une espèce de romantisation des troubles. Ça, c'est encore très présent, cette vision-là de voilà, avec une espèce de crise de l'adolescence un peu grandiose, magnifique, fascination pour les précarités sociales. Enfin, cette conception-là, elle est encore présente. Et je trouve qu'en termes de qualité et de représentation, on est sur quelque chose qui s'améliore d'année en année.
D'accord. Qu'est-ce que vous voulez dire par la question de la romantisation de la précarité sociale? C'est-à-dire qu'il y a une part de mythification?
Oui, il y a, parfois on tombe sur des articles, on a l'impression vraiment que... Il y a presque une beauté comme ça de la crise existentielle, de la remise en question, de la tentative de suicide. Bon, en plus, il y a un effet en psychologie qui s'appelle l'effet Werther, de contagiosité des tentatives de suicide. Et c'est notamment vrai chez les jeunes adolescents. On avait vu le cas avec la série 13 Reasons Why il y a quelques années. Donc avec cette série Netflix qui parlait d'une tentative de suicide d'une jeune adolescente qui racontait épisode après épisode, elle faisait des courriers à différentes personnes de son école. Et ça avait notamment aux États-Unis été à l'origine d'une contagiosité de suicide. Bon, après, moi, ma position n'est pas de dire qu'il y a différentes grilles de lecture d'un fait comme le suicide, typiquement, et la grille de lecture artistique, littéraire, cinématographique, elle existe, mais elle a un impact sur la vie réelle, elle a un impact sur la vie quotidienne des jeunes. Et du coup, d'un point de vue, pour le coup, médical, cette conceptualisation de la santé mentale comme quelque chose de fascinant me pose beaucoup de questions.
D'accord. Alors, on va arriver à la fin de l'atelier. Je ne sais pas si, voilà, c'est le moment, si vous avez des remarques, des questions ou des réactions sur l'ensemble de l'atelier. J'espère que ça vous a apporté des pistes de réflexion. C'est vrai que, donc là, on est dans une situation un peu particulière d'un auditoire invisible et muet pour l'instant, mais n'hésitez pas au moins à nous faire un petit peu de retour. Pour conclure cet atelier, que ce soit qu'on construise la conclusion. Et sinon, je vous encourage à aller regarder ce site, hein, Clepsy, et peut-être de réfléchir à comment est-ce que vous-même, à partir de votre position d'étudiant, de stagiaire, de jeune enseignant, peut-être d'enseignant aguerri, alors enseignants ou pas enseignants hein, d'ailleurs, hein, peut-être personnel d'encadrement, etc. Comment est-ce que vous pouvez peut-être vous approprier ces questions d'information, de qualité de l'information, d'évaluation de l'information, que ce soit sur la question de la santé mentale ou autre question éducative. Et ben, je vais vous remercier. Merci Benjamin.
Merci beaucoup. À vous.
Merci grandement. Et puis merci à chacun d'avoir été présent cet après-midi. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Puis vous n'hésitez pas surtout à faire des retours si vous le souhaitez. À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.